les couilles. Comme ça, je ne vais pas la toucher. J'ai peur que si je fais de la chose.
C'est idiot, j'avais pris un exemplaire de la théorie pure.
De là ?
De la théorie pure du droit que j'ai oublié.
Ah, que vous avez oublié. Ah, je l'ai en haut, je pense.
Je non,
vous
voulez aller la chercher ?
Ah non, je ne pense pas. C'est dans... C'était une autre séance.
Ah !
Ah
non, ça va.
D'accord, il est venu, il était inscrit. Je croyais que vous me demandiez s'il venait comme orateur, parce qu'il est venu comme orateur aussi. Quelle heure est-il ?
6h10.
Alors, on va pouvoir commencer. Magnifique. Alors, on a changé de local, donc je suis un petit peu perturbée par ce local parce que c'est un peu. Bienvenue à tous pour ceux qui reviennent et puis pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc, c'est ce soir la 7e séance du séminaire Figure du juge avec un sous-titre Tradition, savoir et approche. Séminaire. J'entends pas ce que tu dis. Tu veux que je parle plus fort ? D'accord. Donc effectivement, on a changé de local, donc il faut parler plus fort. Mais peut-être vous pouvez, si jamais, vous pouvez peut-être vous rapprocher un peu, parce que c'est vrai que sinon, ça va peut-être être un peu fatigant au bout d'un moment. Donc, ce séminaire, et donc ce soir, c'est la 7e séance de ce séminaire que le Centre de droit public organise dans le cadre d'un programme de recherche collective qui est mené à la faculté de droit sur le juge, l'action du juge et ses représentations. Alors, ce séminaire qui se voulait transdisciplinaire ou pluridisciplinaire en réunissant à la fois des spécialistes de différentes disciplines, mais aussi de différents courants, pas forcément compatibles les uns d'ailleurs avec les autres, a pour but d'essayer d'évoquer des représentations et des images du juge telles qu'elles sont véhiculées dans différentes disciplines ou dans différentes traditions de pensée. Alors ce soir, cette 7e séance sera consacrée à l'une des pensées du droit les plus importantes du XXe siècle, celle de Hans Kelsen, qui non seulement évidemment a marqué l'histoire de la pensée juridique en y imposant des concepts bien connus des juristes comme la pyramide des normes, mais aussi Hans Kelsen qui a connu dans la pratique du droit, et en particulier du droit public, une influence majeure, en particulier au XXe siècle, dans le développement d'un constitutionnalisme qu'on pourrait appeler européen. Qualifié donc de positiviste, et je pense que ce soir on en saura plus sur ce qu'il faut entendre du positivisme de Kelsen, qualifié de positiviste, Kelsen est aussi, on en parlera sans doute, un fervent défenseur de la démocratie, d'une certaine démocratie, il a une certaine conception de la démocratie, et ces deux composantes de sa pensée, son positivisme et sa défense de la démocratie, sont sans doute les facteurs principaux qui vont déterminer la figure du juge chez Kelsen, que Michel Tropper, notre orateur du jour, a la gentillesse d'accepter de nous présenter. Alors Michel Tropper est professeur émérite à l'université, ça a changé de nom, donc maintenant le nom est long, l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Il a été membre de l'Institut universitaire de France et président fondateur de la SFPJ, qui est la Société française de philosophie politique et juridique. Vous le voyez donc, Michel Tropper est à la fois un spécialiste du droit constitutionnel, mais aussi un théoricien du droit. Et cette double casquette, ou cette double façon de penser le droit et les institutions juridiques, lui a valu, entre autres choses, d'occuper en 2009 la chaire Perelman de l'ULB. Et c'est donc avec un grand plaisir que ce soir, le Centre de droit public l'accueille à nouveau dans nos murs. Et je lui cède immédiatement la parole.
Merci beaucoup, chère Julie. Je suis très, très heureux d'être ici. J'avais oublié que c'était 2009, donc ça fait déjà longtemps. Mais c'était un très grand plaisir, un très grand bonheur à cette époque-là. Et c'est encore un très grand plaisir et un très grand bonheur aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Bon. Alors, je dois vous parler de juge dans le positivisme de Kelsen Et je voudrais commencer par faire quelques réflexions sur l'ambiguïté qu'il y a dans ce titre, une double ambiguïté. La première touche à l'expression positivisme et la seconde touche à la manière dont on invoque Kelsen dans les débats, notamment dans les débats sur la fonction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'office du juge. Sur le positivisme, Kelsen est-il positiviste ? Et c'est une question que l'on peut légitimement se poser, parce que si lui-même s'est en général, mais pas toujours, réclamé du positivisme, on l'a quelquefois accusé, notamment son ancien élève, le chef de file de l'école du réalisme scandinave, Alf Ross, l'a accusé d'être un quasi-positiviste, et, pour ne pas dire un pseudo-positiviste. Je vais revenir sur l'injustice de cette qualification tout à l'heure. Mais il faut reconnaître que, à certains égards, Kelsen lui-même a reconnu chercher une voie moyenne entre deux grandes orientations. Celle qui consiste pour la science du droit, la jurisprudence, à dire ce qui doit être, à considérer que les règles sont connues directement par la science du droit, par différents moyens, mais le droit naturel est un des moyens, le droit naturel, la raison, la foi, les commentaires des Écritures sont un des moyens de savoir ce qui doit être, et il y a une branche, et naturellement Kelsen refusait cela, mais il refusait également le positivisme strict du XIXe siècle. Quand on réduisait le positivisme ce positivisme-là à l'idée que le droit est un produit de la volonté. Et contre cette idée que le droit est un produit de la volonté, Kelsen, et d'ailleurs aussi un certain nombre d'autres qui sont qualifiés de positivistes, avaient une objection majeure dérivée de la loi de Hume. La volonté, c'est un fait. Et du fait ne peut pas sortir le droit, contrairement à l'adage du droit romain, du fait ne peut pas sortir du droit, parce que le fait est décrit à l'aide d'une proposition indicative, et comme on sait depuis Hume, d'une proposition indicative, on ne peut pas dériver une prescription. Donc, contre ce positivisme qui considère que le droit est un produit de la volonté, Kelsen avait des objections très, très fortes, et ce qu'il cherche est une voie moyenne. Donc, en quel sens Kelsen est-il positiviste? En quel sens ne l'est-il pas? Il faut, je crois, pour bien comprendre cela, partir d'une distinction de Norberto Bobbio, à mon sens, l'un des, après Kelsen et Hart peut-être, l'un des grands philosophes du droit du XXe siècle. Et Norberto Bobbio distingue trois positivismes, mais on pourrait aussi dire trois positivismes, en tout cas trois sens du mot positivisme. Dans un premier sens, dit-il, le positivisme, c'est une certaine approche du droit. C'est la volonté d'aborder le droit d'une façon scientifique, de construire une science du droit qui soit une véritable science sur un modèle dérivé ou analogue au modèle des sciences empiriques. C'est-à-dire une science qui n'énonce pas des règles, qui n'énoncent pas des normes, mais qui décrit des normes. Et en ce sens, le positivisme s'inscrit dans la lignée des grands positivistes du XIXe siècle, certains grands positivistes du XIXe siècle, Austin par exemple. On veut décrire le droit tel qu'il est, non pas tel qu'il devrait être. Et en ce sens-là, le positivisme est une... Bobbio dit une approche, une attitude qui consiste à distinguer entre la science et son objet. L'objet, c'est le droit, et la science, c'est ce que connaît le, non pas le juriste praticien, mais le juriste savant, le professeur de droit. Et le professeur de droit décrit le droit. Il y a quelques difficultés qui viennent de ce qu'il décrit le droit en énonçant des phrases qui sont semblables à celles qui sont contenues dans le droit, mais ces phrases n'ont pas le même statut. Ce sont des propositions descriptives, elles sont susceptibles d'être vraies ou fausses, alors que le droit est énoncé à l'aide de règles qui ne sont pas logiquement susceptibles d'être vraies ou fausses. Donc, cette distinction est fondamentale pour le positivisme juridique, et Kelsen se rattache en effet à cela. Il y a naturellement une difficulté. Comment faire une science du droit analogue aux sciences empiriques alors que l'objet n'est pas empirique? Toutes sortes de ruses, mais en tout cas, Kelsen a bien cette idée-là. Néanmoins, Ross lui fait un reproche qui est, j'ai cité tout à l'heure, un reproche très fort. Kelsen ne serait qu'un pseudo-positiviste. Pourquoi ? Parce que Kelsen décrit, ou la science du droit de Kelsen entend décrire des normes. Mais qu'est-ce qu'une norme ? Une norme se reconnaît, ce n'est pas simplement une proposition prescriptive, c'est une proposition prescriptive qui appartient à un certain système, qui est valide. Elles ne sont pas susceptibles d'être vraies ou fausses, mais elles sont susceptibles d'être valides. Et comment sait-on qu'elles sont valides ? Parce que elles ont été énoncées, posées, conformément à une norme supérieure, qui elle-même est une norme valide, parce qu'elle-même a été posée conformément à une norme encore supérieure. Et valide dans le vocabulaire de Kelsen est synonyme de obligatoire. Et Ross dit, puisque Kelsen affirme que les normes sont obligatoires, alors il fait à peu près comme les philosophes du droit naturel. Il dit ce qui doit être. Voilà cette accusation de Ross. Et donc, à cause de ce concept kelsénien de validité, dit-il, Kelsen n'est qu'un quasi-positiviste. En réalité, le reproche est, à mon avis, injuste, parce que les normes, selon Kelsen, sont en effet valides ou obligatoires, mais seulement relativement à une norme supérieure. Elles ne sont pas absolument obligatoires. Et on peut parfaitement considérer, selon Kelsen, correctement interprété, qu'une norme, par exemple un contrat, est obligatoire parce qu'il a été fait conformément à une règle supérieure qui est le Code civil, qui lui-même est obligatoire relativement à la Constitution parce que c'est une loi, mais que il n'y a aucune obligation générale d'obéir au droit. Donc le droit, chaque norme est obligatoire relativement à une autre norme, mais le droit dans son ensemble n'est pas obligatoire, sauf d'un point de vue de la morale. Mais ça, la science du droit n'en dit rien, et donc Kelsen ne se place pas à ce point de vue qui serait le point de vue d'une école du droit naturel qui dirait « le droit est obligatoire ». Mais en tout cas, si Kelsen est positiviste, donc il est positiviste malgré Kelsen à cause de cette volonté de donner une analyse du droit qui soit une analyse scientifique. Dans ce premier sens de Kelsen, donc, laissons de côté l'histoire de Ross, qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec la question que nous discutons aujourd'hui, qui est la question du juge. Voyons les autres sens du mot positiviste, et de là vient l'équivoque et l'ambiguïté. C'est que dans un deuxième sens, toujours selon la distinction de Bobbio, le positivisme c'est une théorie du droit, et ou plutôt un ensemble de thèses sur le droit qui sont d'ailleurs disparates. Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je pense que je vais arriver. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Donc, le positivisme comme théorie du droit, c'est un ensemble de thèses disparates, et tous les positivistes ne défendent pas toutes ces thèses, mais certains en défendent une ou deux, et d'autres en défendent d'autres. Donc, en voici quelques-unes, je ne vais pas les dire toutes, mais par exemple, l'idée que le droit est un produit de la volonté. Donc, c'est la thèse que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, que l'on trouve chez des positivistes du XIXe siècle, Bergbaum par exemple, mais enfin chez d'autres aussi. L'idée que le droit est un produit de la volonté de l'État. Alors, chez certains positivistes, diverses volontés, dans d'autres cas, la volonté de l'État. Et bon, ces deux thèses-là sont rejetées par Kelsen, la première pour une raison que j'ai dite tout à l'heure, la deuxième parce que pour avoir une volonté, dit-il, il faut être un homme. Il n'y a qu'un homme qui puisse avoir une volonté. L'État, c'est une pure abstraction, il n'en a pas. Il y a des hommes qui expriment des volontés, et ces volontés sont imputées ou rapportées à l'État, mais il n'y a pas de volonté de l'État. Troisième idée que l'on trouve chez les positivistes, c'est que le juge ne crée pas du droit, mais l'applique. Et donc, selon le positivisme, le juge qui fait autre chose que d'appliquer purement et simplement sort de son rôle. Il devrait se borner à appliquer des règles générales préexistantes à des cas particuliers. Alors ça aussi, Kelsen le refuse, parce que il refuse la distinction entre création et application du droit. On a vu il y a un instant que une norme est valide parce qu'elle a été créée conformément à une norme supérieure. Donc, l'autorité qui a fait la norme supérieure a elle-même agi conformément à une norme encore supérieure. Cette autorité-là, elle applique la norme encore supérieure, elle en crée une, et le juge, c'est la même chose. Il applique la loi, par exemple, à un cas particulier, et il prononce une sentence. La sentence est aussi une norme, si une norme, c'est la prescription d'avoir à faire quelque chose. Et si quelqu'un est condamné à une peine de prison, eh bien, c'est une prescription qui est adressée par le juge aux autorités pénitentiaires de garder cette personne en prison. Donc le juge applique, certes, mais il produit lui aussi une norme. Et puis, La dernière thèse positiviste que je voudrais mentionner ici... Non, je vais en mentionner une cinquième encore. Bon, la quatrième thèse que je voudrais mentionner, la quatrième thèse positiviste, c'est que l'application juridictionnelle, l'application se fait par des procédés logiques. Et il y a une thèse positiviste qui est dérivée indirectement de Montesquieu, la thèse de la bouche de la loi, dérivée de Montesquieu via Beccaria, que le juge statue par voie de syllogisme, dont la loi est la prémisse majeure, la prémisse mineure c'est le fait, et le jugement est la conclusion. Cette idée est une idée qui convient bien au positivisme classique, parce que, en effet, si le juge procède par voie de syllogisme, il ne crée rien, il ne décide rien. Il se borne à appliquer mécaniquement la loi par le moyen du syllogisme. Or, Kelsen rejette ça pour une raison principale et puis une autre raison qui est en réalité encore plus importante mais qui ne vient pas tout de suite. La raison pour laquelle il rejette ça tout de suite, c'est que la loi n'est jamais une loi qui ordonne une conduite précise et qu'il suffirait d'appliquer au cas particulier. Le juge se trouve toujours en présence d'une disposition qui lui laisse une marge d'appréciation. Et il y a la part de création judiciaire vient précisément de cette marge d'appréciation. Même si l'on prend le droit pénal, eh bien, il y a le plus souvent, il y a une peine maximum et une peine minimum, et le juge doit choisir en fonction des circonstances entre ces deux peines. Et là, j'ai pris le cas le plus simple, mais il y a beaucoup d'autres cas où le juge a une marge de pouvoir discrétionnaire. Et puis, la cinquième thèse positiviste, c'est que les lois, les règles que le juge doit appliquer sont ou doivent être, c'est là que le positivisme est sujet à caution, le positivisme de ces gens-là, de ces positivistes du XIXe siècle, la loi est ou doit être rédigée d'une façon si claire, que le sens n'a pas à être découvert. D'où l'adage in claris non est interpretandum. Quand les choses sont claires, il ne faut pas interpréter, et la loi est présumée claire. Et on cite d'ailleurs au XIXe siècle un article 4 du Code civil qui dit qu'il est interdit au juge de refuser de juger sous prétexte de lacune ou d'obscurité de la loi. Donc la loi n'est jamais obscure, et elle est complète, donc selon cette vue. Alors, Kelsen dit, non, ce n'est pas le cas, il y a toujours une marge d'interprétation. Il refuse cette théorie de l'interprétation qui est présupposée par la théorie positiviste. Donc, du point de vue de la théorie du droit, si Kelsen est positiviste du point de vue de l'approche, du point de vue de l'épistémologie, il n'est pas positiviste dans ce deuxième sens. Et troisième sens, dit Bobbio, distingué par Bobbio, le positivisme comme idéologie. Et il y a une thèse que l'on rattache quelquefois au positivisme et qu'on fait remonter par exemple à Hobbes, selon laquelle il faut obéir au droit. Il faut obéir au droit, et fameuse séparation du droit et de la morale impose qu'on laisse de côté les maximes morales et que l'on obéisse au droit quel que soit son contenu. Et la fameuse formule que l'on prête aux positivistes, Gesetz ist Gesetz. Donc il faut obéir au droit, il y a plusieurs variantes, mais il faut obéir au droit quelquefois parce que le droit est nécessairement bon, il a été voulu par l'État, l'État a le souci de l'intérêt général, donc puisque c'est l'État qui l'a voulu, il est bon, ou bien peu importe qu'il soit bon ou mauvais, il faut lui obéir parce que c'est le droit. Donc il y a ces deux variantes. Bon. Bobbio souligne, à très juste titre, que entre ces trois sorte de positivisme, il n'y a pas de lien logique, il n'y a aucune cohérence. Qu'on peut être positiviste dans le premier sens et pas dans le deuxième, ça on l'a vu, et pas dans le troisième. Et qu'il y a même une incompatibilité. Parce que si on est positiviste dans le premier sens, en tant qu'approche, si on veut construire une science du droit, il faut que cette science du droit obéisse au canon de la science, qu'elle soit neutre, qu'elle s'abstienne de tout jugement de valeur, qu'elle soit pure en quelque sorte, pour reprendre le titre du grand livre de Kelsen, théorie pure du droit, pure de quoi? C'est pas le droit qui est pur, c'est la théorie qui est pure, elle est pure de tout jugement de valeur, pure de toute prescription. Ça c'est l'épistémologie qui est là-dedans. Et donc, si cette science est pure, naturellement, elle ne peut pas être une idéologie, elle ne peut pas prescrire. Elle ne peut pas dire que le droit est bon et elle ne peut pas dire que le droit est bon. Donc c'est une incompatibilité totale. Si on est positiviste dans le premier sens, on ne l'est pas dans le troisième et vice-versa. Donc voilà, c'est quelque chose là sur le positivisme. Maintenant, sur les cas, les représentations que l'on se fait de Kelsen dans le discours ambiant. Et il y a ici aussi quelques ambiguïtés qui tiennent, bon, comme c'est souvent le cas, non seulement au fait qu'on a mal compris Kelsen, et qu'en général on le prend pour un positiviste au sens maniaque du syllogisme, mais ça tient aussi à des variations que l'on rencontre chez Kelsen lui-même, et sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais l'usage qu'on en a fait, j'aurai peu de temps, donc je vais juste me borner à une chose qui est l'usage que l'on a fait de Kelsen dans la théorie du contrôle de constitutionnalité des lois. Vous savez probablement que Kelsen, si vous avez entendu un peu la biographie de Kelsen, que Kelsen était un jeune professeur à l'université de Vienne en 1914, je crois, et en 1918, quand la République autrichienne a été proclamée, les sociaux-démocrates qui étaient au pouvoir ont demandé à Kelsen de présider une commission chargée de rédiger un projet de constitution. Et cette constitution a été l'une des toutes premières dans l'histoire du monde à instituer une cour constitutionnelle. Et c'est une cour, bon, il y avait la Cour suprême des États-Unis, mais qui n'est pas à proprement parler une cour constitutionnelle. Elle peut contrôler la constitutionnalité des lois, mais elle n'en a pas le monopole et elle n'est pas spécialisée là-dedans. Tandis que la cour constitutionnelle de Kelsen était spécialisée et elle avait le monopole. Et sur le modèle de la cour créée par Kelsen en Autriche, on a créé en Europe des cours constitutionnelles qui reproduisent, en gros, qui reproduisent la cour autrichienne. C'est le cas de la cour allemande, la cour italienne, la cour espagnole, la cour d'arbitrage chez vous, et même à certains égards le Conseil constitutionnel français. Donc ça a eu un grand développement, et on s'est beaucoup appuyé sur les idées de Kelsen pour justifier la création de ces cours. Comment et pourquoi? Comment lui-même justifiait-il la création de la cour? Et on voit que il y a là, à la fois chez lui et chez ceux qui ont fait usage de ses idées, il y a un peu plus que ce que je vous ai esquissé tout à l'heure des idées de Kelsen à propos du juge. En effet, la Cour constitutionnelle est présentée par lui comme un moyen de garantir, le seul moyen de garantir la suprématie de la Constitution. S'il y a une Constitution, elle n'est pleinement obligatoire que si les violations sont sanctionnées. Et pour sanctionner les violations, il n'y a qu'un juge. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais tous ceux qui ont préconisé en Europe la création d'une telle cour ont invoqué l'exemple de Kelsen et ont invoqué l'idée la plus fameuse à laquelle Julie Allard a fait allusion tout à l'heure, la hiérarchie des normes. S'il y a une cour constitutionnelle, alors la hiérarchie des normes sera maintenue et sinon elle s'effondre. C'est faire de la hiérarchie des normes autre chose que ce que Kelsen prétendait en faire. Ce que Kelsen prétendait faire avec le concept de hiérarchie des normes, c'est un outil pour décrire le système juridique tel qu'il est. Donc on observe le système juridique et l'on constate que ce système est hiérarchisé. Ici, la hiérarchie des normes devient autre chose. C'est un principe qu'il faut respecter. Et si vous n'avez pas une hiérarchie des normes suffisante, eh bien, il faut une cour constitutionnelle pour en avoir une vraie, une bonne. Donc, c'est bien plus que... Mais, en tout cas, c'est un défaut qui se trouve chez lui, et c'est un défaut qui a été amplifié par ceux qui l'ont suivi. D'autre part, cette idée que la Cour constitutionnelle va garantir la suprématie de la Constitution, cette idée-là a quelques difficultés ou quelques tensions, comme il est plus élégant de dire aujourd'hui, avec deux autres. La première... c'est une tension avec l'idée que la Cour a une marge de manœuvre et qu'elle ne se borne pas à appliquer. Il faut reconnaître que une Cour constitutionnelle ne peut pas appliquer mécaniquement la Constitution, qu'elle a un pouvoir discrétionnaire, et donc le juge constitutionnel n'applique pas réellement la Constitution s'il se borne à exercer un pouvoir que lui confère la Constitution qu'il a instituée, et s'il fait acte de créateur, entièrement créateur de droit, sans rien appliquer réellement. Sans appliquer autre chose que la norme qui l'habilite à être juge. Première tension. deuxième tension avec l'idée démocratique. Kelsen n'est pas seulement un théoricien du droit, philosophe du droit, un juriste, mais c'est aussi un grand théoricien de la politique. Un livre majeur sur la démocratie. Et la démocratie est définie comme, non pas comme le pouvoir du peuple, Kelsen se méfiait de ces abstractions-là, mais elle est définie comme un système dans lequel le plus grand nombre d'individus sont autonomes, en ce sens qu'ils sont soumis à des règles qu'ils ont contribué directement ou indirectement à produire. Et ça veut dire que ils ont contribué à les produire en élisant des députés qui vont voter des lois. Donc on est autonome si on est soumis à des lois, ce qui rejoint d'ailleurs l'idée révolutionnaire, même pré-révolutionnaire, c'est l'idée de Montesquieu, la liberté c'est le droit de n'obéir qu'aux lois. Kelsen est tout à fait dans cette ligne-là. Mais alors, si on n'obéit qu'aux lois, pourquoi faudrait-il obéir à un juge ? Si le juge est là pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, et si les lois si les lois qu'il contrôle ont été des lois adoptées démocratiquement, le contrôle de constitutionnalité est une limite au pouvoir des représentants, on dirait aujourd'hui une limite au pouvoir du peuple. Donc il y a ces deux tensions. Alors, toutes ces ambiguïtés étant notées, je vais en venir. J'ai pris beaucoup de retard. Je veux en venir à deux points. Et ça devait être deux parties de mon exposé, mais ce sera deux mini-parties. La théorie de la fonction judiciaire, j'en ai déjà dit quelques mots ici ou là, et puis l'épistémologie positiviste. Donc Kelsen est la théorie positiviste de la fonction judiciaire. J'en ai dit un mot tout à l'heure, est de savoir si le juge se borne à appliquer, ça c'est la vision positiviste du XIXe siècle, et Kelsen refuse la théorie du syllogisme, qui était la théorie dominante à son époque, celle qui vient de Beccaria, qui a été d'ailleurs adoptée et transmise par la Révolution française, et qui avait une conséquence importante sur laquelle je ne me suis pas attardé, qui concernait l'interprétation. Je dis tout à l'heure que pour le positiviste, la loi doit être claire, et le juge doit lire la loi, comme tout citoyen d'ailleurs, il peut la comprendre, le sens de la loi est tout à fait apparent, il n'y a pas à interpréter. Et la Révolution française en a tiré une conséquence très importante qui se fait sentir encore aujourd'hui. Il est interdit au juge d'interpréter. L'une des premières lois révolutionnaires, une loi de 16 et la première grande loi sur le pouvoir judiciaire, 16 et 24 octobre 1790, il est défendu, défense est faite au juge à peine de forfaiture d'interpréter les lois. À peine de forfaiture. C'est un crime d'interpréter les lois. Et cette attitude avait été celle de tous les rédacteurs de code. Bien avant, Justinien interdisait qu'on interprétât son code, mais aussi Frédéric II et le grand-duc de Toscane. Et puis ensuite, pourquoi ? Parce que interpréter disait-on. C'est le pouvoir de faire dire au texte ce qu'on veut lui faire dire. Autre chose que ce que l'auteur initial du texte a voulu. Donc, si vous interprétez ma loi, eh bien, vous usurpez mon pouvoir. Et c'était en ce sens, c'est pour ça que c'est un crime. Parce que si la loi a été faite par le législateur, démocratique ou pas, mais celui qui a exprimé la volonté générale, eh bien, c'est une usurpation. C'est une usurpation, c'est donc un crime. Donc, défense d'interpréter. Bien entendu, il est impossible de respecter cette interdiction, parce qu'on ne peut pas juger sans interpréter. Donc, une contradiction majeure qui, dans laquelle le positivisme du XVIIIe siècle s'est embourbé et contre laquelle il a bien fallu se dresser. Alors, il critique ces deux points. Il critique le syllogisme. Pourquoi critique-t-il le syllogisme ? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la loi laisse une marge d'appréciation, et donc il n'y a pas d'application mécanique. Mais ensuite, à la fin de sa vie, il a une critique bien plus forte. La critique bien plus forte, c'est l'idée que la logique ne peut pas s'appliquer au droit. C'est une grande question de savoir si la logique peut s'appliquer au droit, et on comprend bien la question pourquoi elle est si importante et si embarrassante. C'est que la logique classique est une logique qui permet d'inférer la vérité d'une proposition de la vérité d'une autre. Or, les normes ne sont pas susceptibles d'être vraies ou fausses. Elles sont valides, mais elles ne sont pas vraies ou fausses. Et la validité ne peut pas être inférée de la même façon que la vérité. Ce n'est pas l'équivalent de la vérité pour des normes. Elle ne peut pas se transférer. Donc, dans la deuxième partie de sa vie, enfin dans la première partie, Kelsen voulait quand même appliquer la logique, mais il avait trouvé un truc. C'est de dire que la logique ne s'applique pas directement aux normes, en effet, pour les raisons que je viens de dire, mais elle s'applique néanmoins aux propositions qui décrivent les normes. Celles-là sont des propositions, elles sont susceptibles d'être vraies ou fausses, et par conséquent, si on prend par exemple le principe de contradiction, il ne peut pas y avoir de contradiction entre deux normes, mais il peut y avoir une contradiction, dit-il, entre deux propositions qui décrivent des normes. Si je dis « il existe en droit français une règle qui punit les assassins de la peine de mort », eh bien cette proposition est contradictoire avec la proposition « il existe en France une règle qui interdit d'appliquer la peine de mort aux assassins ». Donc là, il y a bien une contradiction, et ça ne s'applique donc les deux règles, les assassins sont punis de la peine de mort et les assassins ne sont pas punis de la peine de mort, ne sont pas directement contradictoires parce que ce sont des règles, mais elles sont indirectement contradictoires parce qu'elles sont décrites à l'aide de deux propositions qui, elles, sont contradictoires. Voilà, ça c'était le premier truc de Kelsen. Mais il a abandonné ce truc-là. Et il a abandonné ce truc-là parce qu'il s'est aperçu que les deux propositions, pour reprendre l'exemple des propositions qui décrivent des règles contradictoires, les deux propositions sont susceptibles d'être vraies toutes les deux. Une contradiction, n'est-ce pas, c'est une relation entre deux propositions dont l'une est vraie si l'autre est fausse et vice-versa. Or, les deux règles sont susceptibles d'être vraies toutes les deux, non pas dans le cas de la règle française, mais elles sont susceptibles d'être vraies toutes les deux si deux règles ont été produites et sont maintenues en vigueur simultanément et si l'une n'est pas annulée. Une règle ne peut pas être non valide. Une règle peut être annulée, mais tant qu'elle n'est pas annulée, elle est valide, elle reste en vigueur. Et donc, le petit truc logique là, ne fonctionne plus. Et on peut prendre l'exemple du syllogisme judiciaire aussi, de la même façon. Imaginons, c'est un exemple dérivé de Kelsen lui-même, imaginons une règle qui dise, ou un juge qui ferait le raisonnement suivant. Tous les voleurs doivent être punis. Dupont est un voleur. Conclusion, Dupont est acquitté. On dira, ça n'est pas logique. Ça n'est en effet pas logique, mais il est parfaitement possible, en droit, que la sentence soit une norme valide. C'est une norme valide si le juge a été compétent, il a statué conformément aux procédures prévues, et puis la norme n'a pas été annulée, par exemple, parce que personne n'a fait appel. Donc elle est devenue définitive. Alors vous avez ici une norme. La conformité à la logique n'est pas une condition de validité des normes. Donc, le deuxième, le Kelsen tardif, peut encore s'éloigner davantage de la théorie positive. Et il s'en éloigne aussi avec la théorie de l'interprétation. Et à mon avis, je vais très rapidement essayer de montrer que si Kelsen était parfaitement conséquent, il s'en éloignerait davantage encore. En effet, que dit la théorie classique de l'interprétation, la théorie traditionnelle, celle sur laquelle s'appuient les positivistes, c'est que les textes, je simplifie un peu, mais les énoncés qui ont la signification de normes ont un sens et un seul, et que bon, soit ils doivent être clairs, ce sens est perceptible, et dans ce cas-là, il ne faut pas interpréter, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors le sens n'est pas absolument clair, et à ce moment-là, il faut interpréter, mais découvrir le sens qui est présumé déjà là, dans le texte. Or, Kelsen dit, cette idée est une idée étrange, et il faut la rejeter. Et il faut, en réalité, distinguer deux types d'interprétation. L'interprétation qu'il appelle scientifique, ou on peut l'appeler aussi de doctrine, l'interprétation à laquelle se livrent, par exemple, les professeurs de droit, qui n'ont pas de pouvoir, qui ont simplement connaissance. Et cela, ils analysent le texte par toutes sortes de méthodes. Kelsen est très, très discret sur la question des méthodes. Ils analysent le texte et ils font la liste de tous, ou en tout cas du plus grand nombre de significations possibles du texte. Et puis, il y a une deuxième sorte d'interprétation qui est pratiquée par des autorités, et on peut naturellement penser avant tout à des juges, et surtout à des cours suprêmes. Et ces autorités-là ont le pouvoir de choisir parmi toutes ces interprétations, toutes ces significations, celle qui sera la signification que Kelsen appelle authentique. C'est-à-dire celle qui s'incorpore au texte. C'est celle qui va déterminer quelle est la norme valide. Et alors que la première interprétation est une fonction de la connaissance, la deuxième, celle qui est produite par le juge, est une fonction de la volonté. Parce qu'il choisit. C'est un acte de volonté. Et on pense à des cours suprêmes qui prennent des décisions sans appel. Des décisions qui ne pourront pas donc être contestés, quel que soit le contenu de l'interprétation, même si la signification choisie va contre tout ce que tout le monde pouvait comprendre du texte. y compris son auteur, ou le public éclairé, ou les professeurs de droit. Peu importe le contenu de l'interprétation, la Cour suprême l'a dit, c'est comme ça. Voilà le grand apport de Kelsen, ce type d'interprétation, ce type de théorie de l'interprétation, ça s'appelle une théorie réaliste. Voilà ce que c'est vraiment l'interprétation. Ça consiste dans un acte de volonté par lequel l'interprète, celui qui a reçu le pouvoir de le faire, choisit en dernière instance une signification qu'il impose, qui s'impose ensuite et qui devient la norme. Alors, on voit que si le juge a ce pouvoir-là, eh bien, et là je prolonge, je vais un petit peu au-delà de Kelsen, alors le juge ne fait pas qu'appliquer et créer, mais s'il applique, il crée la norme qu'il a lui-même créée. En effet, rappelez-vous ce que c'est qu'une norme. Une norme, c'est pas le papier. Une norme, c'est la signification du papier. Si une norme est une signification, alors interpréter ne porte pas sur la norme. Interpréter, c'est déterminer la signification. C'est donc déterminer la norme. Je répète, la norme est une signification. Si l'interprète détermine la signification, c'est l'interprète qui détermine la norme. Et c'est une idée que l'on rencontrait déjà au XVIIe siècle. L'interprète, c'est le véritable auteur de la norme et non pas celui qui l'a énoncée en premier lieu. Donc, le juge qui a le pouvoir d'interpréter, c'est lui le véritable législateur. Il n'applique pas la loi faite par le Parlement, il applique la loi telle que il l'a interprétée. Il crée des normes. Donc, son juge devrait être le véritable créateur, le véritable créateur du droit. Dernier point, si vous me donnez encore 5 minutes. 5 minutes. Kelsen et l'épistémologie positiviste. Ça devait être ma deuxième partie, ça sera ma conclusion. Kelsen est-il positiviste, véritablement, dans le premier sens du terme? Alors, il l'est. On a vu qu'il cherchait cette voie moyenne, mais qu'il avait cru la trouver en distinguant la science du droit lui-même. Et qu'il avait en effet intitulé son livre « Théorie pure » pour bien marquer qu'il s'abstenait de prescrire. Pourtant, il prescrit. Il recommande, par exemple, de créer une cour constitutionnelle, mais aussi dans d'autres domaines, en droit international. Il a l'idée très utopique d'une civitas maxima, d'un ordre international qui serait régi par le droit et où il y aurait des juridictions qui feraient régner la paix universelle et qui se substituerait naturellement, qui remplacerait avantageusement les guerres. J'ai pas le temps de parler du droit international, mais juste un mot sur les cours. Dans quelle mesure peut-on recommander la création d'une cour constitutionnelle, ou comment Kelsen justifierait-il cette recommandation au regard de l'épistémologie positiviste? Alors, il s'est défendu contre l'accusation de prescrire. En développant rapidement l'idée que si la science est une science, elle peut déboucher sur une technique. Et il a fait appel à la notion de norme technique. Qu'est-ce qu'une norme technique ? C'est pas une norme. Une norme technique, c'est l'indication des moyens qui permettent d'obtenir un certain résultat. Donc il n'y a pas de prescription parce que on ne dit pas que le résultat est souhaitable. On dit, si vous voulez ce résultat, alors il faut le faire. Modèle, si norme technique, pour faire bouillir de l'eau, il faut la chauffer à 100 degrés. Vous n'êtes pas obligé de faire bouillir de l'eau, je ne vous le recommande pas, je ne vous incite pas non plus à vous en abstenir, mais si vous voulez le faire, voilà le moyen, le seul moyen que vous devez employer. Eh bien, la science du droit, dit-il, doit elle aussi produire des normes techniques. Et, par exemple, la Cour constitutionnelle, c'est un moyen, et il faut le comprendre comme ça, c'est le moyen de réaliser la suprématie de la Constitution. Alors, est-ce vrai ? Est-ce un moyen de réaliser la suprématie de la Constitution ? Et est-ce que Kelsen ne s'écarte pas d'une épistémologie positiviste lorsqu'il le fait. S'il se bornait à dire « Si vous voulez que la Constitution soit suprême, alors il faut créer une Cour constitutionnelle », alors là, en effet, il n'y aurait rien à redire. Mais il va malheureusement plus loin. Il dit qu'il faut réaliser la suprématie de la Constitution. Et pourquoi faudrait-il réaliser la suprématie de la Constitution ? Parce que, dit-il, tout ordre juridique est hiérarchisé. Et donc la loi ne peut pas être une loi si elle n'est pas conforme à la Constitution. Et donc si vous voulez que la loi soit une véritable norme, valide, obligatoire, il faut qu'elle soit conforme à la Constitution. Et pour qu'elle soit conforme à la Constitution, eh bien, il faut assurer la garantie. Donc, il va plus loin qu'une simple épistémologie. Et puis, il va naturellement, pour réfuter ou tenter de réfuter un certain nombre d'objections, qui lui viennent notamment de Carl Schmitt, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour réfuter une objection, mais cette Cour constitutionnelle, elle va se mettre à légiférer, et donc c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Il va être obligé de trouver un certain nombre d'arguments. Il va dire par exemple, non, c'est pas une atteinte à la séparation des pouvoirs, parce que la Cour constitutionnelle, ça n'est pas un véritable juge. En réalité, c'est un législateur. C'est un législateur. Un législateur négatif, certes. Ce que c'est qu'un législateur négatif par rapport à un législateur positif, ça n'est pas extrêmement clair chez lui, mais ça n'est qu'un législateur négatif. Bon, il ne voit pas que, quand il a fait cette tentative de réfutation, il s'est enfoncé en réalité davantage, parce que la question de la séparation des pouvoirs n'est pas une question de savoir si c'est de la juridiction ou si c'est de la législation, mais de savoir à quel type d'autorité on confie le pouvoir législatif. Si on confie le pouvoir législatif à des gens qui ne sont pas élus, alors c'est bien une atteinte à la séparation des pouvoirs au sens où on l'entend dans un système démocratique. Et puis, quand on lui fait l'objection du caractère peu démocratique, justement, de cette institution d'une cour qui légifère contre un parlement élu, il dit oui, mais elle a quand même, cette cour, elle a quand même une légitimité démocratique. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce ne sont pas des juges, justement. Ce ne sont pas des juges ordinaires, ils ne viennent pas de la magistrature, mais ils sont élus par le Parlement. Bon, c'est vrai dans le système autrichien, ça n'est pas vrai dans toutes les cours constitutionnelles. Mais dans le système autrichien, tel qu'il l'avait imaginé et institué, eh bien, la Cour était en effet élue par le Parlement. Mais là, on voit que ce sont des prescriptions qui sont des prescriptions d'ordre politique. Alors, je vais, pardonnez-moi, là, j'étais, je crois, un peu trop long et un peu désordonné, mais je vais m'arrêter là et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir ou d'aller sur des points qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder.
Voilà, merci beaucoup. Donc, effectivement, je vous remercie pour cet exposé qui était riche et vous avez respecté en plus tout à fait l'heure qui vous était octroyée. Et je suis sûre que ça ne va pas manquer de susciter parmi la salle certainement des questions et peut-être des questions difficiles, peut-être des compléments par rapport à ce que vous avez évoqué. Ou en tout cas, pour ma part, avant de céder la parole à la salle, je voudrais, si vous voulez, enfin si c'est possible, je serais peut-être un peu aussi décousue parce que j'essaye de relier la question qui me travaillait avant de vous écouter et celle qui me travaille maintenant. Donc j'essaye de les mettre ensemble. Ma question porte en tout cas sur une forme d'ambivalence que je ressens chez Kelsen, puisque c'était la question, quelle est la figure du juge dans le positivisme de Kelsen ? Et au-delà du fait de savoir si il est ou non, ou si cette figure est ou non positiviste, je me demande s'il n'y a pas en tout cas plusieurs figures du juge chez Kelsen. Et en tout cas, si celle qui est dominante n'est pas en elle-même ambivalente ou s'il n'était pas lui-même ambivalent, ce qui ferait peut-être la richesse de cette représentation, mais aussi la difficulté pour lui donner, pour la comprendre. Alors, d'abord, peut-être juste un petit mot, c'est en vous écoutant et aussi en réfléchissant à la question du juge, je me suis dit, en réalité, sur la question du rôle du juge ou sur sa représentation, il y a deux types de questions que je sépare ici, mais qui sont en fait liées entre elles, évidemment, ou qui sont liées entre elles dans les théories qui s'intéressent au droit et au juge. Mais il y a des questions qu'on pourrait dire d'ordre épistémologique, qui consistent à s'interroger sur le raisonnement du juge. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il aboutit à une certaine décision? Donc, vous avez évoqué ces questions. Est-ce qu'il applique la norme? Est-ce qu'il déduit ses décisions de la loi? Est-ce que le juge interprète le droit? Et ainsi de suite, qui, me semble-t-il, sont des questions qui relèvent de la façon dont on décrit le raisonnement du juge. Et puis, il y a un autre type de question que vous avez moins abordé, mais dont on voit tout de suite l'ambivalence qu'il va y avoir chez Kelsen à ce niveau-là, qui sont des questions plus politiques, qui consistent à interroger le rôle du juge en rapport avec une certaine forme d'organisation de la vie en société ou en rapport avec un certain type de gouvernement et en particulier avec la démocratie. Mais on pourrait imaginer aussi, comme par exemple Montesquieu le fait, d'évoquer le rôle des différentes institutions selon les types de régimes auxquels on a affaire. Et donc, ces questions, à ce moment-là, sont un peu différentes. Évidemment, elles sont liées au raisonnement et à la façon dont on se représente le raisonnement du juge, ou peut-être que la façon dont on se représente le raisonnement du juge est aussi fonction de la vision politique que l'on a de sa fonction, hein, ça dépend dans quel sens on veut le voir, et là évidemment peut-être que selon la théorie du droit ou l'épistémologie du droit à laquelle on adhère, on verra en priorité les questions politiques ou en priorité les questions plus épistémologiques, mais alors se posent d'autres questions, c'est-à-dire quelle est la meilleure forme de gouvernement, quel rôle le juge doit exercer dans ce type de gouvernement, a-t-il un pouvoir? Doit-il avoir un pouvoir? D'où tient-il la légitimité de ce pouvoir? Et ainsi de suite, toutes ces questions qui sont en fait très classiques, mais où il me semble qu'il y a chez Kelsen une petite difficulté, et vous l'avez évoqué à la toute fin de votre exposé, puisque vous avez évoqué la question d'une part de l'articulation de ces thèses sur notamment la Cour constitutionnelle, avec son épistémologie positiviste, et je dirais, deuxième problème, l'articulation de ses thèses sur la Cour constitutionnelle avec sa pensée de la démocratie. Et c'est là-dessus que je voudrais évoquer des choses que vous n'avez pas dites et peut-être pour lancer le débat aussi, parce que je me suis, en préparant un peu votre venue, je me suis intéressée à cette partie de la pensée de Kelsen qui, à mon avis, n'est pas contradictoire avec la première, mais qui, en tout cas, crée une sorte d'ambiguïté sur son rapport aux institutions. Alors, je vais le faire pour ceux qui nous entendent ici en reprenant quelques dents. Donc, il y a un livre de Kelsen sur la démocratie qui s'appelle La démocratie, sa nature, ses valeurs. Et ce livre. Ce livre se termine par une citation, une discussion de Kelsen d'une partie de l'évangile selon saint Jean. Et je me suis permise de reprendre cette question parce qu'en réalité c'est une question qui nous a intéressé dans un autre séminaire où on a traité d'une autre figure du juge en philosophie. Les étudiants n'étaient pas encore là, mais on pourra en discuter avec eux, où Platon opposait effectivement d'une part le philosophe qui s'intéresse à la vérité et puis la foule qui s'intéresse à des opinions et qui sont donc manipulables. Et on avait vu que sortait de cette opposition une certaine représentation du juge. Et en lisant Kelsen, j'ai découvert effectivement que Kelsen était un anti-platonicien et je me suis intéressée à la figure du juge qui émerge donc de cette critique, enfin qui n'est pas ouvertement une critique de Platon, mais en réalité une critique de Platon. Alors, pour pas que ça soit trop des détours, j'ai repris les parties, j'ai même un peu plus du chapitre 18 de l'évangile de saint Jean, et je vous lis. Donc il s'agit en fait d'une des parties où on amène Jésus à Pilate, d'accord, et Kelsen cite, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire de trouver ce type. On se demande quel est le statut exactement de cette référence chez Kelsen, et Kelsen donc cite des extraits de l'évangile. Alors je vous en dis plus que ce qu'il ne dit lui, d'accord. Donc Pilate sortit à leur rencontre et demanda: quelle accusation portez-vous à cet homme, donc à Jésus? Ils lui répondirent: s'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Parce qu'en fait, en réalité, il y avait un équilibre entre les prérogatives de l'occupant, en quelque sorte, romain, qui avait le droit de mettre à mort, et d'autres types de normes qui s'appliquaient dans d'autres domaines. Bref. Alors Pilate, je saute une partie, alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres t'en l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: est-ce que je suis juif, moi? Ta tradition et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, vous allez voir après pourquoi je fais tous des tours, hein. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi, etc. Pilate lui dit alors, c'est là la partie que cite Kelsen: alors tu es roi? Jésus répondit: c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Et Kelsen cite ce passage pour illustrer, me semble-t-il, et c'est pour ça que c'est la question, une des questions que je voudrais vous poser, pour illustrer une certaine figure du juge. Parce qu'en réalité, Pilate incarne ici une forme de juge. Hein, il est l'autorité judiciaire auquel on conduit quelqu'un et il refuse de décider. Hein, vous voyez ici que c'est un juge qui va transférer. Il se sent pas l'autorité pour décider ce qu'a fait. D'ailleurs, peu importe ce qu'il a fait vraiment, il lui pose la question, il leur demande. Et il délègue ici au peuple il délègue au peuple la décision. Alors, cet argument, ce passage évidemment de la Bible, n'est pas à la gloire de Pilate, normalement. Mais Kelsen l'utilise pour essayer de montrer que un régime politique, la force de la démocratie, c'est que c'est un régime politique qui n'a pas besoin pour fonctionner de se fonder sur la vérité avec un grand V. C'est un régime qui n'a pas besoin et qui ne doit pas, alors ça c'est l'ambiguïté, qui ne doit pas, qui n'a pas nécessairement besoin d'une conception métaphysique ou religieuse. Et autrement dit, la démocratie, c'est ce régime qui délègue au peuple, non pas parce que le peuple est plus intelligent, et pas du tout parce que le peuple sait ce qu'est la vérité, mais parce que il n'y a personne qui sait en réalité ce qu'est la vérité. Et que donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eh bien, dans le doute, la majorité, c'est le meilleur critère pour déterminer en réalité une décision. Et donc, Jésus, dans cette histoire, incarne une forme de vérité absolue, transcendante, et Pilate incarne au contraire, je dirais, alors là, dans un anachronisme total, une sorte de figure qui préfère la procédure à la vérité, hein, qui va dire, bah, décider, après tout, et puis, peu importe qu'il soit finalement innocent ou coupable. C'est pas la question, presque. Et donc, c'est intéressant de trouver ça chez Kelsen, hein, quand même. Bon. Et donc, Kelsen, et je cite Kelsen, parce qu'il, donc il parle de Pilate ici, parce qu'il ne sait pas ce qu'est la vérité, et que Romain, il est accoutumé à penser démocratiquement, il en appelle au peuple et provoque un plébiscite. Donc, Kelsen fait une interprétation de cette histoire pour montrer que le pluralisme des valeurs qui caractérise la démocratie doit nous conduire à une forme de scepticisme moral, qu'on ne peut pas décider d'une vérité absolue, et que donc le droit lui-même ne doit pas nécessairement se fonder ou ne doit pas être fondé sur une certaine conception du vrai, du bien, du juste, etc. Mais qu'au contraire, il ne doit être fondé sur rien, il ne doit pas être fondé. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va utiliser cet extrait, cet exemple de l'histoire de l'Occident, pour justement critiquer la démocratie. Hein, pour critiquer, c'est pour ça que je parlais de Platon tout à l'heure, parce que c'est la même histoire que le procès de Socrate qui se joue ici, c'est critiquer la foule qui est prête à condamner un innocent juste parce qu'elle est en plus grand nombre à vouloir sa mort, et a donc libéré le brigand. Et Kelsen lui-même reconnaît qu'il y a quelque chose de tragique dans cet acte démocratique. Mais néanmoins, il dit, pour pouvoir s'opposer au verdict de la foule, c'est-à-dire au verdict, vous voyez où je vais arriver, hein, c'est la question du contrôle de constitutionnalité, mais pour s'opposer, dit Kelsen, au verdict de la foule, il faut connaître la vérité avec un grand V. C'est-à-dire, il faut être le fils de Dieu. Hein. Il n'y a que Jésus qui, lui, sait s'il est ou non le roi des Juifs. Et donc, Pilate ne connaît pas la vérité avec un grand V, et les juges en général non plus. Et donc, les juges ne peuvent pas s'opposer, en ce sens, me semble-t-il, au verdict de la foule ainsi énoncé. Et donc, la question, une des questions que quand même, vous l'avez évoquée à la fin de votre exposé, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez troublante. Je sais que Kelsen trouve des astuces pour répondre, pour contourner ce problème. C'est de savoir, au fond, comment Kelsen articule cette vision radicale de la démocratie, qui était la sienne, à propos de laquelle il sait effectivement, vous l'avez confronté à Carl Schmitt. Alors ce qui est intéressant, c'est que Carl Schmitt aussi cite l'histoire avec Barabbas, et il la cite en réalité, je crois, avant Kelsen. Donc je pense qu'en fait Kelsen a repris expressément cette histoire de Schmitt. Qu'est-ce que dit Schmitt? Schmitt critique en réalité la démocratie, parce que pour Schmitt c'est une sorte d'indécision. C'est la démocratie, c'est le fait du débat des opinions, le fait qu'il y a une sorte de, je le cite, un débat parlementaire éternellement remis et une discussion perpétuelle. Avec donc cette critique de Schmitt qui consiste à dire, du coup, il n'y a pas de décision qui est prise. Et plus loin, il dira, et c'est là que vient l'histoire de Barabas, ce libéralisme avec, bon, j'ai coupé aussi, hein, ce libéralisme avec ses conséquences et ses compromis ne subsiste que dans le court intervalle dans lequel il est possible de répondre à la question Jésus-Christ ou Barabas. Donc vous voyez ici qu'il y a en réalité deux conceptions, évidemment pas de la démocratie, mais deux rapports à l'opinion, au pluralisme, au débat, évidemment une conception radicale de Kelsen en faveur du débat, y compris avec ses errances, hein, les errances du débat et la tragédie à laquelle il peut conduire. D'un autre côté, une critique du débat lui-même par Schmitt. Et donc, je suis un peu troublée parce que je sais que Kelsen s'oppose à Schmitt pour défendre le contrôle de constitutionnalité et en même temps pour défendre la démocratie. Et donc ma question, c'est comment il fait pour faire tenir les deux ensemble, concrètement. Je sais que c'est... Voilà, j'en ai d'autres des questions, mais bon. Ça sera trop long.
Bon, mais celle-là, ça suffira pour les 3 heures qui viennent. Bon, écoutez, je suis d'accord avec presque tout ce que vous avez dit sur le passage sur Pilate dans la démocratie. Bon, j'ai pas relu ce livre depuis quelque temps, mais il me semble pas que Pilate soit là la figure d'un juge. C'est la figure de quelqu'un qui a une décision à prendre. Et Kelsen utilise cet exemple pour justifier le relativisme éthique. Mmh. Et pour justifier sa propre position qui consiste à dire que la démocratie présuppose le relativisme. Parce qu'en effet, s'il y avait des valeurs objectives et connaissables, alors il faudrait donner le pouvoir aux philosophes. Enfin, à ceux qui connaissent la vérité. Si au contraire on pense que qu'il n'y a pas de valeur absolue ou qu'elles ne sont pas connaissables, alors votre avis vaut bien le mien. Et puis la seule chose qui importe, c'est qu'il y ait le maximum d'individus qui soient autonomes. C'est-à-dire qu'ils soient soumis à leurs propres règles ou qu'ils soient soumis à leurs propres valeurs, ce qui revient au même. Et donc la démocratie est le seul système qui permette ça. C'est ça, je crois, en gros, la position de Kelsen sur la démocratie. Alors, donc il dit que Pilate est un démocrate, en effet, mais il ne dit pas que c'est un juge.
Non, ça c'est moi qui, oui. Qui dis que... Évidemment, il ne dit pas ça, mais il reste que Pilate doit prendre une décision qui ressemble fortement à une décision qu'on dirait aujourd'hui
oui.
judiciaire, mais, quand même. Hein, il est...
Oui.
Évidemment, il n'a pas le système derrière. Mais, hein, ça oui, je suis tout à fait d'accord.
Mais si vous mettez ça dans un système moderne, c'est-à-dire un système dans lequel le juge le plus démocrate n'est pas celui qui va aller regarder ce que dit la foule massée à l'extérieur du palais de justice. Le démocrate, c'est celui qui va appliquer la loi votée démocratiquement. Même si la foule hurle à la mort dehors, il ne va pas condamner à mort si la loi ne le lui permet pas. Ou au contraire, donc parce que Pilate, on peut dire que c'est un démocrate, mais il est un démocrate uniquement dans la mesure où il défend le relativisme des valeurs. Il n'est pas un démocrate s'il obéit à la loi du lynch. Mais c'est là l'ambiguïté. Donc il faut le prendre, je crois, comme simplement une métaphore du relativisme et pas du tout comme la figure d'un juge, parce que comme juge, il ne serait pas démocrate du tout. il serait celui qui obéit au lyncheur. Alors, maintenant, pour en venir à votre question sur le contrôle de constitutionnalité. la discussion avec Schmitt s'inscrit dans une un contexte. Il y a Kelsen avait d'abord créé la Cour constitutionnelle. Et puis Schmitt, bon, je pense que tout le monde sait c'est ça, mais je le rappelle tout de même brièvement, Schmitt a écrit un livre qui s'appelait Der Hüter der Verfassung, le gardien de la Constitution, parce que lui aussi voulait que la Constitution soit gardée. Et lui, il voulait qu'elle soit gardée par le président. Le gardien de la Constitution, ça devait être le président du Reich. Et Kelsen répond par un livre qui s'appelle Wer soll der Hüter der Verfassung sein? Qui doit être le gardien de la Constitution? Réponse, pas le président, une cour constitutionnelle, parce que... Alors pourquoi? Pourquoi une cour constitutionnelle? Eh bien parce que la cour constitutionnelle va appliquer le droit, tandis que le président, il va faire autre chose, il va faire de la politique, et la cour ne fera pas de politique. Alors, en ce sens, on peut dire que la position de Kelsen est à la fois une position, on peut dire, démocratique et antidémocratique. Démocratique, si on pense que la Constitution a été adoptée démocratiquement. Antidémocratique, si on pense que la Cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de s'opposer à la majorité démocratiquement élue du Parlement. Et il faut bien noter d'ailleurs que la Cour constitutionnelle de Kelsen n'est pas là pour défendre les droits de l'homme. Kelsen est très, très clair là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait une déclaration des droits dans la Constitution. Alors, pourquoi? Mais c'est un peu une certaine naïveté de la part de Kelsen. Parce que, dit-il, il faut que la Constitution soit claire. Ici, il est positiviste. Il faut que la Constitution soit claire. Et il ne faut pas qu'elle soit sujet à interpréter. Or, une déclaration des droits, elle est forcément exprimée dans des termes vagues et ambigus, qui laissent trop de place à l'interprétation. Donc, si vous insérez une déclaration des droits, vous donnez à la Cour un pouvoir beaucoup trop grand. Elle ne se contentera pas d'appliquer la Constitution, mais elle va, sous couleur d'interpréter les termes de la déclaration, exprimer ses propres valeurs. En réalité, il a raison. Il a raison. C'est bien ce qui se passe. Là où il est naïf, c'est de penser qu'il échappera à ça s'il n'y a pas de déclaration. On y arrive nécessairement. Les cours, naturellement, interprètent en fonction de leur propre valeur, quelle que soit qu'il y ait une déclaration, que les termes soient vagues. Bon, on peut, avec le pouvoir d'interprétation, quand on a un pouvoir d'interpréter en dernier ressort, on fait ce qu'on veut. Donc, s'il faut dire, est-ce que la Cour est démocratique? Alors, il dira oui, la Cour est démocratique parce qu'elle applique la Constitution qui est elle-même démocratique. Elle est démocratique parce qu'il n'y a pas de déclaration des droits et donc son pouvoir d'interprétation sera limité, croit-il. Elle est démocratique parce que les juges ne sont pas des juges professionnels, mais qu'ils sont élus par le Parlement. Et alors il faut des majorités spéciales. Là, ça aussi, c'est théorie démocratique de Kelsen. Pour que le maximum, il y a une contradiction d'ailleurs, pour que le maximum de citoyens soit libre, il faut que le maximum soit autonome, c'est-à-dire soumis à leurs propres règles. Et pour que ce maximum soit atteint, il faut que la loi ne soit pas imposée par une majorité, mais qu'elle soit le fruit de compromis. Parce que plus il y a un compromis, dit-il, alors le juge... s'il y a un compromis, alors tout le monde sera parti au compromis, et donc tout le monde sera soumis à une loi à laquelle il a participé. Il y a une contradiction chez lui. Parce que il lui faut quand même justifier le principe majoritaire. Et il explique que le système le moins autonome, c'est le système de l'unanimité. Parce que si vous exigez l'unanimité, alors il suffit que un s'oppose pour que tous les autres soient soumis à la volonté de cet un-là. Donc, la même chose, si vous exigez une majorité des deux tiers pour adopter une loi, alors ça veut dire que si vous n'avez que 65%, alors les 65% seront soumis à la volonté des 34% qui restent. Donc, il y a une contradiction. Quand Kelsen dit il faudra un compromis entre plusieurs groupes du Parlement pour élire les membres de la Cour, de telle sorte que cette Cour soit représentative d'une grande majorité. C'est une contradiction. Mais enfin bon, il y a autre chose qu'il ne voit pas, parce qu'il n'est pas un très fin politique, c'est que dans toutes les cours constitutionnelles où il y a ces exigences de majorité qualifiée pour nommer les juges, les partis s'entendent entre eux. On voit ça très bien en Italie. Nous allons voter à la majorité des deux tiers pour que ça soit un coup ton candidat qui sera nommé à la Cour suprême et le coup prochain le mien. Et donc les compromis sont en réalité des faux compromis, sont des systèmes de partage du pouvoir. Et puis il y a aussi une autre astuce de Kelsen pour donner une justification démocratique au système. Il dit la Cour constitutionnelle ne s'oppose pas réellement à la volonté du peuple souverain, ou à la volonté de la majorité parlementaire. Car la Cour, dit-il, ne se prononce jamais que sur la procédure. C'est une théorie qu'on a popularisée en France sous le nom de théorie de l'aiguilleur. Et la Cour est comme un aiguilleur des chemins de fer qui ne décide pas de la direction des trains, mais qui se contacte, qui sait que quand le train doit aller à Paris, alors on va le mettre sur cet aiguillage-là, sur cette voie-là, plutôt que sur la voie qui l'amènerait dans une autre ville. Et la Cour est exactement dans ce sens-là. Quand la Cour s'oppose à une loi, dit Kelsen, ce n'est pas qu'elle s'oppose à la volonté de la majorité, c'est qu'elle dit... Vous pouvez adopter cette mesure, mais vous ne pouvez pas l'adopter en forme législative. Vous pouvez toujours l'adopter en forme constitutionnelle, pourvu que vous adoptiez la procédure prévue pour la révision de la Constitution. Et donc, moi, elle est tout à fait neutre, cette Cour. Elle ne fait pas de politique. Bon, en réalité, c'est une gigantesque blague. Parce que, d'abord, l'aiguilleur, lui... Il a un horaire des chemins de fer et il sait qu'à 17h47, il y a un train qui va passer, qui sera un train de marchandises et qu'il devra envoyer dans cette direction. La Constitution n'est pas aussi claire, elle laisse une bien plus grande marge d'appréciation. La Cour n'est pas un simple aiguilleur. Et les raisons pour lesquelles elle peut envoyer une loi sur telle ou telle voie, n'est pas une raison qui tient à la lettre de la Constitution, c'est une raison qui tient à la manière dont la Constitution a été interprétée par le juge lui-même, et interprétée, comme c'est une fonction de la volonté, se fait nécessairement en fonction d'un certain système de valeurs. La Cour n'est pas neutre du tout. Autre inconvénient, autre chose, c'est que l'organe de révision, le pouvoir constituant. D'abord, dire qu'on peut adopter la même mesure en forme constitutionnelle, ça n'est pas dire, bon, vous faites quand même ce que vous voulez, parce que la voie constitutionnelle n'est pas toujours accessible. Il y a des situations, il y a des cas, il y a des constitutions qui rendent extrêmement difficile la révision. Le par exemple aux États-Unis, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut le vote au Congrès, puis la majorité des 3/5 des États. Donc c'est quasiment, bon, ça arrive une fois par siècle de modifier la Constitution. Même la Constitution française est difficile à modifier. Et puis il y a des constitutions qui ont ce qu'on appelle des clauses d'éternité, que vous ne pouvez pas changer du tout. En Allemagne, par exemple, si une loi a été déclarée contraire au principe de dignité, eh bien, on ne peut pas l'adopter en forme constitutionnelle parce qu'on ne peut pas réviser cette loi. Donc, l'idée de Kelsen ne marche pas du point de vue des démocratiques. Et puis, ça ne marche pas non plus parce que, à supposer que vous puissiez réviser la Constitution, pourquoi est-ce que ce serait plus démocratique, hein, c'est ce qu'il prétend. Pourquoi ce serait plus démocratique de faire adopter la loi en forme constitutionnelle que de la faire adopter en forme législative? Ça n'a rien de plus démocratique. La procédure est seulement plus difficile et il faut une majorité plus importante. Alors, une majorité plus importante, ça veut dire qu'une minorité est capable de s'opposer.
Est-ce que tu voudrais poser une question ou réagir?
C'est par rapport à l'extrait de la Bible que vous avez cité tout à l'heure.
Ouais.
En fait, j'ai un peu du mal à voir le rapport avec les questions que vous dites, justement, parce que j'ai tout de suite pensé, quand vous parliez de Pilate qui décide finalement de faire appel à la foule, j'ai un peu pensé à l'institution du jury populaire dans notre système à nous. Et dans le recours de Pilate à la Bible, ou dans l'institution du jury populaire, vous disiez Jésus lui-même à l'intérieur connaît la vérité, mais personne d'autre finalement n'est capable de la connaître. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité? Du coup, on se tourne vers le peuple. Mais est-ce que c'est pas finalement du juste naturalisme, justement, de considérer qu'alors le peuple a une conception du juste, du beau, du bien, j'en sais rien, qui va permettre de prendre une décision qu'on considère comme...
Je veux juste dire une chose, il y a juste un malentendu, donc, enfin en tout cas je crois que dans l'esprit de Kelsen, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on confie au peuple parce que le peuple lui saurait en tant que peuple. Il n'y a pas du tout d'idéalisation du peuple, au contraire, il disait tout à l'heure qu'il se méfie des hypostases, des fictions comme ça, donc ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, c'est de dire comme personne ne sait ni le peuple, ni un individu, ni personne. Alors, c'est la loi de la majorité, en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire que la majorité a peut-être tort, mais elle a pour elle d'être la majorité, donc elle permet de trancher, elle permet de prendre une décision dans l'indécidable. Or, effectivement, ici, il s'agit d'illustrer qu'il y a des questions de valeur qui sont pour Kelsen indécidables en tant que telles. C'est-à-dire qu'elles relèvent d'un choix individuel dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai ou faux, et, ni valide ni invalide. Peut-être vous voulez compléter.
Non, c'est exactement ce que j'aurais dit.
Donc c'est pas du droit naturel en ce sens-là. Il ne s'agit pas de naturaliser l'institution peuple pour en faire le vecteur de la vraie vérité. Pas du tout.
Oui, j'avais juste une question. Je crois que j'ai du mal à comprendre peut-être à quelle définition du positivisme vous y référence. Mais j'ai eu l'impression que pendant un moment, on essayait de comprendre si le fait... pour Hans Kelsen de soutenir et de proposer, de mettre en œuvre finalement un projet de cour constitutionnelle, était positiviste ou pas. Alors que j'ai l'impression que dans ce cas-là, Hans Kelsen est dans une position en fait de législateur, quel que soit son par rapport, bien sûr c'est un académicien, mais je veux dire, à ce moment-là il est dans le rôle du législateur. Mm-hmm. Est-ce qu'il est logique de se poser la question de savoir si un législateur peut être positiviste? Est-ce qu'un législateur... Est-ce que la logique du positivisme s'applique à un législateur en tant que tel? Est-ce que c'est pas une notion qui sert à comprendre d'autres choses, mais pas celle-là. Et pour ça, d'ailleurs, le positivisme a été dépassé en théorie du droit par certains autres qui disaient, mais non, pour le législateur, il faut d'autres théories que le positivisme parce qu'il ne saura rien en faire. Lui, ça ne l'intéresse pas. Donc j'avais cette question un peu, j'ai eu du mal à articuler les deux.
Non. Alors, j'ai probablement pas été assez clair là-dessus. Le positivisme intervient ici à deux niveaux, je crois. D'une part, est-ce que un législateur peut se prévaloir d'une théorie positiviste du droit pour proposer une institution? Et Kelsen répond oui. C'est parce que je développe une science du droit que je vais construire une technique sur le fondement de cette science. De même que si j'ai une bonne science de la cuisine, hein, je saurai que pour faire bouillir de l'eau, il faut la chauffer à 100 degrés. De même, si j'ai une bonne science du droit, je saurai qu'il y a une hiérarchie des normes et que pour assurer la suprématie de la Constitution, il faut créer une cour constitutionnelle. Donc je m'appuie sur ma connaissance positive du droit. Donc ça, c'est ce que ça c'est sur le premier plan. Deuxièmement, il faut se poser la question de savoir si, une fois instituée, la Cour constitutionnelle correspond à un modèle de juge qu'on appelle le juge positiviste, qui applique la loi et qui, enfin, ici la Constitution, et en même temps qu'il crée des normes. Et la réponse, c'est que ici, Kelsen, je crois, est victime de la théorie qu'il a critiquée à propos du juge ordinaire, puisque lui aussi prétend que le juge ne fait qu'appliquer, alors qu'en réalité, il recrée la Constitution de la même façon que le juge ordinaire recrée la loi.
Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette deuxième partie, qu'après je vais passer, est-ce qu'il n'y a pas une différence de casquette, il ne joue pas le même rôle. Est-ce que c'est pas assez logique de dire, en tant qu'académicien, je vais vous expliquer que le juge, de toute façon, crée la loi, il n'y a pas moyen autrement, il interprète. Mais une fois que je suis invité à être quelque part législateur ou conseiller du prince, je vais à un moment donné vous dire que, bah oui, on va tendre vers plus de neutralité.
Non, vous avez raison, c'est pour ça que je dis que c'est sur deux plans.
Ok, donc
c'est sur deux plans.
Olivier, tu veux.
Moi, j'avais un peu dans la lignée de ça des questions aussi par rapport à la cohérence de Kelsen à partir de l'interprétation. Ça a déjà été un peu évoqué. Mais ce que je ne comprends pas fondamentalement, c'est que finalement, il développe assez fort une interprétation de type décisionniste où c'est l'auteur, l'interprète est un auteur et que donc c'est lui qui crée et que la norme n'a d'ailleurs de signification qu'une fois qu'elle aura été interprétée et donc appliquée, etc. Mais en même temps, il dit que le droit, et c'était le point de départ un petit peu par rapport au positivisme du 19e, le droit, c'est pas la volonté de l'État. Et là, j'ai un peu du mal à recoller les deux morceaux, puisque comme le juge lui-même, c'est quand même l'État, donc si c'est le juge qui décide quelle est la loi, c'est lui qui crée la loi, et donc c'est l'État qui crée la loi. Et donc, finalement, la loi, enfin la norme plus exactement, est le produit de la volonté du juge. Ça, c'était mon premier point. Et en lien avec ça.
Si vous permettez, cette question est déjà complexe, avant que vous passiez à l'autre, je vais essayer d'y répondre de mon mieux. D'abord, je voudrais souligner que j'ai tiré Kelsen vers le réalisme, probablement plus loin qu'il n'aurait voulu se laisser entraîner. Parce que il ne dit pas tout à fait que le juge recrée. Il dit que il choisit entre plusieurs interprétations et que ce choix est un choix volontaire, mais qu'il s'opère à l'intérieur d'un cadre, le cadre qui a été délimité par la science, c'est-à-dire à la suite d'une opération de connaissance. Alors, c'est moi qui dis, ça va plus loin, bon, Kelsen n'était pas tout à fait un réaliste. C'est moi qui le tire vers le réalisme. Et mon argument, c'est que, mais il serait probablement pas d'accord, mais mon argument, c'est que si le juge choisit une interprétation en dehors du cadre, eh bien, elle est tout de même valable. Elle s'impose, exactement comme si elle ne l'était pas. Comme si elle était.
Ça lui le dit ou pas ?
Comment ?
Est-ce que ça lui le dit ?
Non, il ne le dit pas, c'est moi qui le dis. Non, il ne le dit pas. Mais, donc c'est pour, comme ça que je le tire vers le réalisme. Donc lui ne dirait pas qu'il recrée complètement, puisqu'il ne choisit que parmi les sens possibles, mais ces sens possibles pour lui sont déjà dans la. Sont déjà dans la loi. Donc il crée dans la limite. Des interprétations permises. Mais, Alors, donc il n'est pas aussi... Alors, maintenant sur l'autre point, oui, vous avez parfaitement raison. Bien sûr que le juge, c'est l'État. Et entre parenthèses, ceux qui disent qu'aux États-Unis on a un système où il y a le droit sans État, non, se trompent complètement. En effet, le juge c'est l'État et ses décisions sont imputées à l'État. Vous avez parfaitement raison. Mais quand on le positivisme du 19e disait que le droit était créé par l'État, c'était dire le droit est créé par la loi et c'est la loi est la seule source de droit, donc c'est la volonté générale ou la volonté de l'État, donc le juge ne doit rien faire parce qu'il ne va pas avoir de volonté, et s'il n'a pas de volonté, il applique le droit qui est lui la volonté de l'État.
Alors justement, en lien avec ça, dire que le juge ne doit pas créer, c'est une chose, dire qu'il crée dans la réalité, c'est autre chose, qui n'est pas du tout incompatible. Donc du coup, j'ai l'impression parfois qu'il y a une espèce de confusion parce que dans ce que, compris, oui. Kelsen a l'air de critiquer une prescription, le juge ne doit pas créer au nom d'une réalité. Ça voudrait juste dire que la prescription n'est pas suivie, ça ne veut pas dire que la prescription en tant que telle n'existe pas ou qu'elle n'est pas logiquement possible. Et donc en effet, ce qu'on demande au juge, c'est de dire qu'il ne doit pas créer, tout en sachant qu'il va s'en créer.
Ça dépend qui demande.
Mais d'essayer de ne pas créer.
Non.
Et alors, ensuite, quand il motive, de dire qu'il n'a pas créé. Ou en tout cas, de ne pas dire qu'il a créé. Ou de faire semblant qu'il n'a pas créé et qu'il n'a fait qu'appliquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le fonctionnement par l'observation. Maintenant, si on prend le côté de la prescription, alors effectivement, on dit que le juge ne doit pas créer parce que... Et là, ça s'appuie sur une philosophie politique... bien particulière,
oui.
qui sort du positivisme au sens épistémologique, qui renvoie aux théories de la souveraineté en lien avec le législateur, enfin la révolution.
Oui. Mais Kelsen, lui, n'oppose pas ce qu'il observe de la fonction du juge dans la réalité à une prescription. Le juge ne doit pas créer. Ça, c'est pas lui. Il ne dit pas que le juge ne doit pas créer. Il dit au contraire, non. On ne peut pas appliquer du droit sans en créer. La hiérarchie des normes, c'est ça. C'est que, sauf la Constitution, qui n'est pas un acte d'application, mais de pure création, et sauf la décision tout à fait en bas, l'application matérielle par l'agent de police, qui est une simple application sans création de normes, entre les deux, il y a toute une gamme de décisions qui sont à la fois création et application. Donc la réalité que Kelsen observe, ce n'est pas qu'il ne doit pas créer, ce n'est pas qu'il ne crée, c'est la réalité qu'il observe, c'est qu'il crée. Mais lui ne n'ordonne rien, ne recommande rien.
Oui, mais je ne vois pas en soi, alors, où est la critique d'un positivisme qui dirait que le juge ne doit pas créer. Peut-être qu'il crée, mais il ne doit pas, il ne peut pas le faire.
Ah, alors, un positivisme qui dirait que le juge ne doit pas créer ne serait pas un positivisme.
Puisqu'il s'appuie sur des prescriptions citées qui sont le fait que le juge, d'ailleurs à l'origine, ne peut pas interpréter ou que le juge est soumis... Et tout simplement sur les motivations des juges qui, même quand ils créent, les cours constitutionnels disent qu'ils ne créent pas. Donc ce qui tend quand même à montrer qu'il y a une norme, peut-être pas un fait, mais qu'il y a une norme. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas créer, puisqu'ils ne l'assument pas. Ils ne disent pas, de toute façon, nous on a le pouvoir créateur, donc on crée. Donc c'est quand même qu'il y a une norme.
Non mais là, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, qui est la description du droit positif. La description du droit positif, comme je l'ai fait, il y a une loi du 16 et 24 août 1790 qui interdit au juge d'interpréter. Donc, je suis positiviste, je décris cette loi du 16 et 24 août 1790 et je la répète, puisque je la cite, et je dis il ne faut pas créer. Selon le droit positif, il ne faut pas interpréter. Maintenant, il y a l'autre positiviste, celui qui décrit le système juridique. Et celui qui décrit le système juridique dans son ensemble en tant que phénomène juridique, celui-là, il doit dire, en tant que positiviste, non pas, il ne doit pas créer, il doit dire, le juge ne crée. Mais ce sont deux plans différents.
Je voudrais juste une question qui vient un peu de mon approche de privatiste. Puisque tout au long du 19e siècle, dans le grand mouvement de codification, cette question de la figure du juge a préoccupé les rédacteurs des codes et revient chaque fois dans toute une série de codes où l'image qui en ressort est variable, avec une intensité aussi variable selon les codes, mais plus précisément, on est dans une optique, le juge doit créer, très souvent. On le voit dans le code civil français, on le voit, à plus forte raison encore, mais d'une manière très curieuse, dans le code civil suisse, où là, on dit même que le juge doit faire comme s'il agirait s'il était législateur.
En cas de lacune.
En revanche, dans d'autres codes, comme le code civil autrichien, on dit qu'il doit interpréter, mais il doit interpréter par rapport à un droit naturel. Donc on trouve finalement des conceptions assez variables, des intensités variables, mais qui souvent partent d'une idée de juge créateur de normes. Et je voulais savoir, par rapport à ces différentes approches, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y a quelque part un code qui, pour vous, s'approche quand même de la figure du juge dans la conception de Kelsen?
Alors, dans la conception de Kelsen, autant d'après ce que je peux savoir, il a critiqué très vivement le code civil suisse. Alors qu'il dit le juge doit appliquer la loi, en cas d'absence, en cas de lacune de la loi, il doit rechercher dans la coutume ou dans la jurisprudence, je ne sais plus, s'il ne trouve pas dans la coutume ou dans la jurisprudence, alors il doit appliquer la norme qu'il aurait créée s'il avait été législateur. Alors, pour Kelsen, c'est inacceptable, parce qu'il n'y a pas de lacune. Ça n'existe pas. Et pour dire que ça n'existe pas, il y a toute une théorie qui dit en gros qu'il y a trois catégories de normes. Les normes ne sont pas des énoncés, ne sont pas des textes. Les normes sont des significations des textes. Il y a trois catégories de normes qui sont les normes impératives qui interdisent, les normes impératives qui ordonnent et les normes qui permettent. Bon. Qu'est-ce qu'une norme qui permet? C'est une norme que l'on découvre lorsqu'il n'y a pas de normes qui commandent ni de normes qui interdisent. Donc on se trouve nécessairement dans une situation comme ça. Oui, il en donne une autre démonstration. Quand on fait une demande en justice, il faut invoquer une norme applicable. Si vous n'êtes pas capable de citer un texte à l'appui de votre demande, eh bien le juge rejette tout simplement. Donc il n'y aura pas de lacune. Et il donne l'exemple d'un homme qui ferait un procès à son beau-père parce que le beau-père lui a donné en mariage une femme absolument impossible. Donc il demande des dommages intérêts à ce beau-père. Et Kelsen dit que doit faire le juge dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est trop simple, il rejette la demande puisque le gendre mécontent n'est pas capable d'invoquer une disposition du code civil sur laquelle fonder sa demande. Alors, donc il n'y a pas de lacune. Il y a toujours une situation comme ça, une situation, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc il n'est pas expressément interdit, et nécessairement, donc il n'y a pas de lacune. Et l'article 1er du Code civil, dit Kelsen, est une escroquerie. C'est une façon de donner au juge un pouvoir qu'il ne devrait normalement pas avoir. On lui permet de donner des règles générales. Non, il y a autre chose que je n'ai pas dit aussi, et que j'aurais dû dire, là, ça c'est une grave lacune chez moi, dans mon exposé, qu'il y a Kelsen. Il y a un phénomène que Kelsen n'a pas compris et dont il n'a pas pu rendre compte, c'est la jurisprudence. Parce que quand il dit que le juge applique la loi, il imagine toujours des situations dans lesquelles le juge applique une règle générale à une situation concrète et produit une norme individuelle, comme la sentence en matière criminelle. Mais le phénomène de la jurisprudence, c'est-à-dire le phénomène de normes générales qui seraient produites par des juges, là, Kelsen ne peut pas en rendre compte. Il ne peut pas en rendre compte. Et la raison pour laquelle il ne peut pas en rendre compte, c'est que sa théorie de l'interprétation ne suffit pas. Sa théorie de l'interprétation à l'intérieur d'un cadre et le choix d'un sens qui serait déjà là ne rend pas compte de la jurisprudence.
Et il y avait juste un deuxième volet, un deuxième point pour ma question aussi. Est-ce que la conception du juge dans le positivisme de Kelsen a été confrontée à un moment donné à un système qui tranche quand même radicalement avec toute une série de données qui ont été évoquées, qui est le système de la common law, où le juge est véritablement créateur en permanence, et s'il ne l'est pas, c'est pour appliquer une norme qui est écrite par un autre juge. Pour résumer.
Il a très peu écrit là-dessus. Il a très peu écrit, mais à mon avis, il aurait dit ceci. Ce que disait d'ailleurs Austin, le positiviste, tout simplement. Les juges créent du droit parce qu'ils sont habilités par le Parlement. Et d'ailleurs, si le Parlement n'aime pas ce que font les juges, eh bien, la loi parlementaire l'emporte. En tout cas, depuis l'échec du juge Cook.
Voilà, si vous permettez, on va s'arrêter. Il est 8h05, 2, et on va remercier encore notre orateur de son... Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a une séance à nouveau où on va changer de registre. Hein. On entendra Robert Jacob. Alors je sais pas si l'un de ceux qui organisent ont le titre exact de sa conférence. Non, c'est un titre compliqué. Il s'agit en tout cas d'évoquer la figure du juge dans l'histoire du droit, dans son rapport avec le sacré. Et la vérité religieuse. Donc voilà. C'est mardi prochain à la même heure, au même endroit. Voilà. Bonne soirée.